Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Lefebvre, je suis le chef des placements à la Banque nationale. Alors bienvenue et merci beaucoup de vous joindre à ce podcast BNI. Aujourd'hui, notre discussion va porter sur le revenu fixe et plus précisément sur les prêts bancaires de premier rang. Et pour nous dresser un aperçu de cette classe d'actifs, je suis joint par Sébastien Réaume de Alpha Fix Capital. Bonjour Sébastien.
Bonjour Martin.
Avant qu'on commence, peut-être nous donner un peu un bref aperçu de ce que cette classe d'actifs-là, un peu moins populaire, là, représente pour les investisseurs canadiens.
Oui, en fait, un peu moins populaire au Canada, mais très, très présente aux États-Unis, puis vous allez comprendre pourquoi. Là. Fait que dans le fond, la classe d'actifs, elle est issue du processus bancaire traditionnel. Puis la raison pour laquelle moins connue au Canada, c'est qu'il y a deux éléments. Un, nos compagnies ont tendance à être un peu moins grosses par rapport à l'économie. Et on a un système bancaire que les six grandes banques sont quand même très présentes. Puis en général, les six grandes banques canadiennes sont capables à elles-mêmes de pourvoir aux besoins de capitaux des compagnies canadiennes. Donc, un prêt bancaire, c'est quoi? C'est juste un prêt, donc c'est une compagnie qui a besoin de l'argent, qui va aller voir une banque avec son projet. Et puis, la banque, dans ce cas-ci, parce que le projet est peut-être trop important en termes de grandeur, en termes de capitaux nécessaires, est incapable de souscrire à 100% du prêt. Donc, la banque ou le syndicat bancaire va se retourner de bord et chercher des investisseurs à l'extérieur du syndicat de la banque pour être capable de venir financer la transaction. Fait que c'est là que nous, on rentre en jeu. Donc, c'est super important de comprendre que le gros avantage de la classe d'actifs, c'est que on est vraiment au même niveau que les banques. Fait que toutes les protections que les banques vont s'être négociées comme investisseurs, bien, on bénéficie exactement des mêmes protections. Fait que si nous, on perd une scène, la banque va perdre une scène. Et je dois t'avouer, Martin, c'est rare dans le marché des capitaux, comme prêteur, qu'on a la possibilité d'avoir cette proximité-là au niveau de tout ce que la banque est capable de se négocier en termes de bells and whistles.
OK. Puis ça, qu'est-ce que ça représente pour l'investisseur? C'est quoi? Quel est son avantage à l'investisseur?
Bien, ce que ça vient faire, c'est que ça réduit considérablement le profil de risque. Fait qu'habituellement, puis encore une fois, je recule un peu, fait que vous voyez le prêt bancaire, l'équivalent de ça dans le monde de tous les jours, c'est comme une hypothèque. Fait qu'une banque est prête à prêter beaucoup d'argent pour quelqu'un qui va chercher une hypothèque parce qu'elle a l'actif en garantie. Donc, c'est un peu la même chose que les prêts bancaires. Fait que les banques sont prêtes à prêter beaucoup de capital, mais en contrepartie, elles vont prendre en garantie l'ensemble des actifs de la compagnie. Donc, le fait que ce sont des prêts qui sont garantis, là, d'où le nom, prêt garanti premier rang, bien, ça réduit beaucoup le risque. Fait que si jamais il y a quelque chose qui se passe au niveau de la compagnie, bien, les prêteurs ont recours contre les actifs de la compagnie. Donc, ça vient réduire beaucoup le profil de risque, puis ça vient évidemment augmenter considérablement dans un événement de liquidation, là, le taux de récupération qu'on est capable d'aller chercher.
OK. Ben donc, si on parle de risque moindre, est-ce que ça veut dire que le coupon attendu doit être moins élevé? Ça se comporte comment par rapport à des obligations ordinaires ou à rendement élevé, par exemple?
Bon, c'est ça. Fait que en fait, c'est un peu des phases communicantes. Tu sais, les obligations à rendement élevé et les prêts bancaires, c'est des phases communicantes. Souvent, les émetteurs vont émettre dans un ou l'autre. Donc, c'est ça qui est intéressant. Fait qu'on a quand même on est quand même bien rémunéré. On prend un risque, je ne dis pas qu'on ne prend pas de risque, là. Fait qu'on prête quand même beaucoup d'argent à des compagnies, mais on prête dans la partie la plus sécuritaire de la structure de capital, c'est-à-dire qu'on est le premier rang garanti, donc on est en haut de la pyramide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant de perdre une cède, il faut que l'équité a été wipée, il faut que les prêts subordonnés également aient perdu. Fait que quand on garde une structure de capital, on est en haut, on est bien protégé. Fait que ce qu'on s'attend dans la classe d'actifs, dans le fond, puis on va entrer peut-être dans les caractéristiques bientôt, là, l'émetteur s'engage à payer un écart constant à travers le temps. Fait qu'habituellement, quand un émetteur vient au marché, un projet X, il est financé, c'est un terme qui va osciller entre 5, 6 ou 7 ans, et l'émetteur s'engage à payer un écart fixe en haut d'un taux flottant. Fait que ça, c'est une autre caractéristique de la classe d'actifs, c'est que c'est tous des taux flottants. Et puis, je pense que dans le contexte économique dans lequel on est, c'est quelque chose qui peut être super avantageux.
OK. Parce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Comment ça vient influencer le rendement, en fait, la volatilité ou la fluctuation des taux?
Donc, c'est ça. Fait que ce qui se passe, c'est l'émetteur vient au marché. On va prendre un émetteur qui est coté, disons, double B, un écart de 300. Ça veut dire que l'émetteur s'engage à payer 300 points de base de plus que le taux flottant pour les 6 prochaines années. Fait que si le taux flottant au moment de l'émission il est à 4 %, bien, on rajoute 3 au 4, on est rendu à, on a 7 % de coupons qu'on se fait payer. Si le taux à un jour, le taux flottant monte, comme on a vu en 2022, qui passe de 3 à 3,5, ben là, ou excusez, 4 à 4,5, dans ce cas-ci, on rajoute le 3 % à ça, fait qu'on passe de 7 à 7,5. Fait que le gros avantage de la classe d'actifs, c'est qu'au fur et à mesure que le taux flottant monte, ben, on est rémunéré davantage. Puis c'est pour ça que je pense que c'est une de nos grandes motivations à discuter un peu de la classe d'actifs, c'est qu'en 2022, en fait, les revenus fixes n'ont pas vraiment joué le rôle qu'ils devaient jouer. En 2022, ça a été une année difficile pour l'ensemble des classes d'actifs. Les revenus fixes au Canada, ils ont fait à peu près moins 11,5%. Puis au moment où on en avait le plus besoin, là, fait que l'ensemble des marchés avaient de la difficulté, habituellement, tu t'attends à ce que ton revenu fixe fasse bien. Puis en 2022, encore une fois, c'était juste des mathématiques. Là. Les taux d'intérêt ont monté entre 150 puis 200 points de base sur l'ensemble de la courbe. Tu as une durée de 7, bien, tu ne peux pas te cacher nulle part. Le prêt bancaire est une des rares classes d'actifs en 2022 qui a eu un rendement positif. Puis contrairement au reste des revenus fixes, le prêt bancaire bénéficie à toutes les fois que les taux d'intérêt montent, bien, on est payé davantage. Fait que ce qui est super intéressant pour la classe d'actifs, encore une fois, c'est que ça devient un hedge partiel contre l'inflation. Fait qu'au fur et à mesure que de l'inflation, mais les banques centrales montent les taux d'intérêt, si tu montes ton taux variable, ben t'es payé, t'es rémunéré davantage. Fait que c'est pour ça qu'on trouve que c'est intéressant d'ajouter cette classe d'actifs-là à un portefeuille bien diversifié pour, encore une fois, venir diminuer les risques si les taux d'intérêt montent que la classe d'actifs soit négative.
Est-ce que cette sensibilité-là au taux d'intérêt se vit aussi à la baisse? Qu'est-ce qui se passe si les taux baissent de façon précipitée? Quelle est la durée d'un prêt bancaire?
Fait que c'est un super bon point. Fait que ça va des deux côtés. Fait qu'encore une fois, le terme, c'est des termes habituellement de 1 ou 2 ou 3 mois que les compagnies vont choisir. Fait qu'effectivement, fait que si les taux d'intérêt baissent, mais là, le coupon va également diminuer. On garde l'écart. L'écart est constant, comme je disais tantôt, l'exemple que je donnais, 300 points de base, ça, c'est l'écart. Fait que si le taux un jour passe de 4 à 3, bien, on passe de 7 à 6 fait que ça fonctionne des deux côtés. Mais encore une fois, dans le contexte dans lequel on est, on l'a vu dernièrement, la Banque du Canada probablement annonçait qu'on va prendre une petite pause à ce moment-ci. Je pense qu'il faut reconnaître qu'on est dans un nouvel environnement dans lequel je pense que le taux directeur ou les taux directeurs en général risquent d'être plus élevés que ce qu'on était habitué. Fait que c'est certain que si on avait une vue que les taux d'intérêt retournaient à zéro, bien, la classe d'actifs est moins intéressante. Mais si on pense que le taux directeur peut rester entre 3 et 4 à travers le cycle, ben on a 3 à 4 comme point de départ. On rajoute l'écart moyen qu'on vise. On vise un écart moyen de 225 points de base. Fait que là, on parle de 5 et quart, 6 et quart de rendement. Fait que c'est quelque chose qui devient super intéressant à travers le cycle.
OK, très bien. Quel type d'industrie on peut penser, a priori, qui sont des émetteurs? On a parlé des banques, mais est-ce qu'il y a d'autres secteurs comme tels? Puis quel genre de diversification est-ce qu'on peut s'attendre en tant qu'investisseur?
Le marché des prêts bancaires, en fait, c'est un marché vraiment qui est centré aux États-Unis. Fait qu'on a un marché de prêts bancaires au Canada, mais comme je dis, il reste syndiqué à l'intérieur des banques. Fait que dans le fond, ce que je dis, c'est que les émetteurs dans lesquels on a l'opportunité d'investir, bien, ils reflètent un peu la réalité de l'économie américaine. Fait que c'est ça, un autre des grands avantages de la classe d'actifs, c'est que ça nous permet d'aller chercher une diversification. Fait que l'économie canadienne est quand même assez concentrée dans certains secteurs. L'économie américaine est beaucoup plus diversifiée, que ce soit au niveau des loisirs, des services ou n'importe quoi, la santé, et ainsi de suite. Fait qu'il y a beaucoup de segments de marché qui ne sont pas disponibles dans l'économie canadienne qu'on peut aller chercher. Donc, on est capable de bâtir des portefeuilles qui sont très, très diversifiés en termes de différents secteurs d'activité. Comme je dis, qui sont moins disponibles au Canada. Fait que ça, c'est un autre des grands avantages, c'est que ça permet vraiment de différencier, de diversifier le portefeuille de façon très différente de ce qu'on voit au Canada.
OK, parfait. Puis, tu sais, habituellement, on parle la plupart de nos clients sont dans des profils équilibrés, des portefeuilles balancés, là. Donc, comment, pour un gestionnaire de portefeuille, on peut venir intégrer des prêts bancaires, là? Comment ça vient s'insérer là, dans une bonne stratégie d'investissement?
Fait que c'est super intéressant comme question. Puis, ça dépend vraiment, ultimement, du client. Fait que si on a un client qui est proche de sa retraite, qui a une plus grosse partie de son revenu fixe, bien, peut-être la réponse, ça change. Mais encore une fois, quand on regarde, là, disons, de façon générale, là, la partie revenu fixe du portefeuille, disons qu'on parle, je sais pas, on a 50 % du portefeuille qui est investi en revenu fixe, je pense que c'est légitime de dire, ben on veut pas nécessairement avoir 100 % du revenu fixe qui va être avec une durée de 7, on veut réduire la durée, puis comme je disais, là, se protéger, puis d'aller chercher une protection un peu contre l'inflation. Fait qu'on peut facilement penser qu'on peut prendre 25-30% de ce revenu fixe-là, puis de le mettre dans une classe d'actifs à taux variable, comme je disais, qui va venir protéger contre un environnement où peut-être que l'inflation va être un peu plus volatile, puis éviter de se retrouver dans une situation où, quand les taux d'intérêt montent, bien là, toutes les classes d'actifs ont tendance à moins bien faire, mais au moins, on a une classe d'actifs qui devrait quand même bien s'en sortir là, dans un contexte haussier de taux. Fait que, grosso modo, là, je pense que 25 à 30 % d'un portefeuille investi dans cette classe d'actifs-là pourrait être quelque chose de tout à fait légitime.
OK. Encore une fois, les effets de la diversification puis de la décorrélation aux actifs, même potentiellement aux revenus fixes plus traditionnels. Très bien. Mais merci beaucoup, Sébastien, pour tes lumières. Je pense que ça nous a éclairé. On comprend beaucoup mieux cette classe d'actifs-là. Et à vous tous qui nous écoutez, on se reparle. Merci d'avoir été à l'écoute et on se reparle le mois prochain.
Merci, Martin.